Quand l'île-dieu mettait la mer en bois.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Épisode 6. Au bon moment, au bon endroit. Dans l'épisode précédent, on a dit comment les usines se sont implantées et décrit les procédés de fabrication. 3 usines en 12 ans. C'est un grand changement, ce saut de l'artisanat vers l'industrie, compte tenu de la taille de l'île et de sa population.
En cette fin du 19e, tout début du 20e, c'est toute une économie de la mer qui se met en place à Port-Joinville. Le développement de la pêche, l'ouverture de 3 usines en 12 ans, crée une situation économique dynamique. Sur l'île qui compte alors près de 3500 habitants, à ce moment-là, le développement d'une pêche professionnelle qui trouve enfin des débouchés et le travail salarié des femmes amène des subsides qui déclenchent le développement d'un territoire auparavant plutôt déshérité.
C'est une véritable révolution économique qui est à l'œuvre.
Oui, mais cette manne, ce gage de prospérité, masque une réalité un peu plus contrastée qui mérite d'être examinée plus en détail. Rappelons-nous que l'île-dieu est encore, en cette fin de 19e siècle, un territoire isolé. On peut, à juste titre, se demander pourquoi, malgré les contraintes liées à l'insularité, les industriels font le choix de s'installer dans un port où ils doivent importer tous les matériaux nécessaires à leur production, charbon, huile, sel, et exporter l'intégralité de cette production qui est acheminée par caboteur jusqu'à Nantes.
En fait, les industriels ne s'installent pas n'importe où. En faisant le choix de l'île-dieu pour implanter leurs unités de production, ils répondent à une logique industrielle tout à fait avisée et très opportuniste. Mais pendant que les usines s'implantent à l'île-dieu, que l'économie de la pêche y donne des signaux très positifs, sur les côtes de l'ouest de la France s'amorce une première crise sardinière car à partir de 1870, on constate de grandes fluctuations dans les apports des campagnes de pêche.
C'est la crise de la sardine ?
Si on veut, mais pas pour tout le monde. Car la sardine semble effectivement s'éloigner des zones où elle était habituellement présente, comme dans la baie de Douarnenez. Un nombre important de mauvaises campagnes s'enchaîne, mais par chance, les parages de l'île-dieu semblent épargnés, au moins pour un temps.
Deux délibérations du conseil municipal de l'île-dieu, l'une en date de novembre 1886, l'autre en date de septembre 1887, sont assez explicites à ce sujet. En voici quelques extraits. Depuis l'année 1879, la pêche à la sardine a présenté dans les eaux de l'île-dieu des résultats qui méritent de fixer spécialement l'attention du gouvernement de la République.
Cette industrie des marins des côtes ouest de la France, si lucrative avant 1879, a subi, depuis cette époque, un ralentissement progressif qui a jeté dans la misère les nombreuses familles de marins qui se livrent à cette pêche, leur seule industrie, le commerce maritime étant absolument nul.
Un seul point, l'île-dieu, a la faveur presque exclusive depuis 1879 de posséder ce précieux petit poisson. Tous les pêcheurs depuis Douarnenez jusqu'au Sable d'Olonne s'y donnent rendez-vous chaque année.
Dans les années 1880 et 1881, l'île-dieu a eu le privilège de la pêche à la sardine, à l'exclusion absolue de tous les autres ports de la côte où existe cette industrie.
Depuis 1881, la pêche s'est maintenue fructueuse, quoiqu'un peu moins abondante que pendant les années citées plus haut. Et en 1886, l'île-dieu a encore été le centre de la pêche à la sardine. De nombreux pêcheurs bretons et sablais y ont trouvé le profit qui manquait chez eux.
Pendant cette période, les 3 usines de conserve de poissons établies à l'île-dieu ont fabriqué par année une moyenne de 350 000 kg de poissons, représentant au prix moyen de 2,50 francs le kilogramme, une production annuelle de 87 500 000 francs.
En cette année 1887, le nombre des pêcheurs étrangers est plus considérable encore. Le port est littéralement plein de barques de pêche.
Cela justifie donc la logique industrielle avisée de la stratégie des usines de l'île-dieu.
Jusque-là, oui, c'est bien logique. Premier atout, Port-Joinville est un port moderne au centre de la pêche à la sardine. Le choix des industriels est tout à fait judicieux. L'île-dieu est à ce moment-là l'un des endroits les plus favorisés de la côte en matière de ressources, en poissons et en compétences. Et malgré des campagnes inégales, elle reste un lieu de pêche préservé comparé aux autres ports du littoral où se sont jusqu'alors déployées les conserveries, notamment les ports bretons.
De plus, comme nous l'avons expliqué dans un épisode précédent, les usines s'implantent dans un port transformé et moderne. On est à la fin du 19e, début 20e, dans un port Joinville doté des infrastructures et commodités nécessaires à une exploitation commerciale. modernisé dans le but initial de relancer le cabotage, il offre un abri sûr aux navires. Et ces nouveaux quais ont été conçus pour faciliter l'embarquement et le déchargement des marchandises.
Deuxième atout, la mise de fonds industriels reste modeste, peu coûteuse. Dans les premières conserveries, les opérations de production sont essentiellement manuelles. L'implantation de ce type d'atelier dans des bâtiments vétustes, équipés sommairement, ne constitue pas pour les investisseurs une mise de fonds importante. Les industriels peuvent ainsi multiplier les unités de production, répartir leurs risques, sans mobiliser des capitaux exagérés.
Troisième atout, cette équation, c'est-à-dire être au centre de l'approvisionnement doté d'une main-d'œuvre qualifiée sans investissement majeur, leur permet d'équilibrer les comptes dans un secteur de production qui repose sur des pêches saisonnières et fluctuantes, dont les apports sont irréguliers mais conséquents quand on est au bon moment, au bon endroit.
La multiplication des implantations sur tout le littoral répond en effet à la nécessité pour les industriels de gérer les fluctuations d'approvisionnement sur une activité saisonnière trop courte pour être lissée sur l'année. Quand une usine connaît une baisse d'activité, l'activité d'une autre sur un secteur géographique différent peut compenser et équilibrer le résultat global.
Je te vois venir. La logique financière et stratégique est belle, mais quel est l'impact sur l'humain ?
Le modèle économique qui se met en place sur la côte, avec le développement des usines de conserverie, est implicitement précaire. Schématiquement, il s'agit de faire rentrer une activité artisanale au rendement aléatoire dans un modèle économique industriel qui, pour se maintenir, voire se développer, doit assurer une production et une rentabilité régulière. La principale contrainte pour les conserveurs à la fin du 19e siècle et au début du 20e, c'est-à-dire avant la mécanisation des usines, est d'ajuster les apports en poissons et la capacité des usines à s'organiser en personnel pour gérer la mise en conserve.
Après la mécanisation, le sujet restera le souci d'un approvisionnement régulier. Mais le progrès de la réfrigération permettra de conserver le poisson frais et donc mieux réguler l'approvisionnement pour désengorger les pics d'arrivage. En 1884, le docteur Robuchon, médecin à l'Île-Dieu et armateur d'un bateau sardinier, Les Enfants perdus, témoigne dans son journal d'une saison plutôt médiocre. Il dit
« La campagne sardinière a débuté aux alentours du 12 juin. Le 17, les usines fonctionnent et la sardine se vend de 15 à 20 francs le mille. La pêche se poursuit correctement jusqu'à la dizaine de juillet, mais les prix proposés par les usines chutent à 8 francs le mille dès le 23 juin. Fin juillet, la pêche à la sardine est suspendue. Au 15 août, la pêche au maquereau la remplace momentanément. Fin août, la sardine a disparu et elle ne réapparaîtra pas en septembre. »
En observateur privilégié de la vie quotidienne des insulaires, le docteur Robuchon résume ainsi la campagne 1884 et ses conséquences délétères pour la population.
« La pêche de la sardine a été nulle. Cette campagne vraiment désastreuse entraîne forcément une misère générale pour la saison d'hiver. »
On le sait, l'histoire de la pêche est jalonnée d'irrégularités de rendement dont les populations maritimes s'accommodent comme elles peuvent. Au début du XXe siècle, on connaît mal le mode de vie et les déplacements de ces poissons migrateurs que sont le thon et la sardine. Les explications foisonnent, les uns invoquant les courants, les vents, la température de l'eau, les précipitations, la surpêche ou certains types de pêche déjà. Mais les études scientifiques systématiques n'existent pas. Chaque année, le début de la campagne est une nouvelle aventure dont personne ne peut prévoir l'issue, mais dont chacun sait que le résultat impactera profondément la vie des familles insulaires.
On se retrouve au prochain épisode pour la suite.
Avec les contributions de
recherche, documentation, texte, Pascal Cariou,
voix, Sylvie Monlahuc
et Clément Bertrand.
Adaptation, réalisation, Maya Tubiana-Perrot.
Musique, Clément Bertrand.
Design sonore et mixage, Philippe Turbet.
Moyens techniques, Neptune FM. Une production rendue possible par les services culturels et patrimoine de la municipalité de l'Île-Dieu. Produit par Aerials. Réalisé 100% à l'Île-Dieu.